Aujourd'hui, au Radio-Journal, hausse subite du prix de l'essence au Québec et en Ontario.
Je trouve ça vraiment aberrant, honnêtement.
J'ai hâte d'avoir une auto électrique.
Quelle en est la cause?
De loin, le facteur le plus important, c'est la géopolitique.
Nouvelle pomme de discorde entre Québec et les médecins.
Il n'y aura pas plus d'argent s'il n'y a pas plus d'accès.
Une prime pour la prise en charge de patients orphelins disparaîtra sous peu. Et le kéfier banni à Queen's Park.
It's not healthy and this would just divide the community.
L'interdiction de cet emblème palestinien dénoncé par la majorité des élus. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatché. C'est une situation que les automobilistes et les camionneurs n'avaient pas connue depuis 2 ans. Le prix du litre d'essence a grimpé en flèche du jour au lendemain. Près de 20 cents de hausse à plusieurs endroits ce matin, en particulier dans les grands centres, au Québec et en Ontario. Dans la région de Montréal, le prix d'un litre d'ordinaire a atteint 1,92 $, à Toronto, 1,79 $. Réaction et explication dans ce reportage d'Éric Plouffe.
C'est écœurant.
C'est une des réactions de Jean Croisé tôt ce matin dans la région de Montréal à la vue de cette hausse subite du prix de l'essence. Certains sont mécontents, d'autres résignés.
J'ai pas le choix, fait que ça les change pas mes habitudes, tu sais.
Les conflits et tensions politiques dans le monde expliqueraient cette forte augmentation, selon Carole Montreuil de l'Association canadienne des carburants.
De loin, le facteur le plus important, c'est la géopolitique, que ce soit l'Ukraine, le Gaza ou l'Iran maintenant.
Mais il y a plus, dit le chercheur en énergie Yvan Clich du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal.
À l'arrivée du printemps, il y a toujours une augmentation des prix de l'essence parce que les gens se mettent à davantage circuler. Ça veut dire une demande plus élevée dans un marché qui, de façon un peu artificielle, est plus restreint, notamment par les grands producteurs. J'entends là l'Arabie saoudite et ses alliés qui, eux, veulent maintenir l'offre serrée pour profiter de prix plus élevés.
Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a pour sa part déclaré qu'il rendrait bientôt public un rapport de la Régie de l'énergie qui s'est penché sur les marges de profit engrangées par les stations-service.
Nous avons engagé un expert pour regarder en profondeur ce qui se passe. Les fonctionnaires doivent prendre état du rapport. Je vais avoir un rapport la semaine prochaine. Je vais en discuter avec eux autres et on va divulguer en temps et lieu ce qui va se faire.
CAA Québec est d'avis qu'il faudra vérifier dans les prochains jours si cette hausse subite du prix de l'essence est liée à une marge de profit disproportionnée des détaillants ou le résultat d'une augmentation du prix qu'ils paient pour l'acquérir. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal.
Le ton monte de nouveau entre les médecins de famille et le ministre de la Santé du Québec, cette fois au sujet d'une prime annuelle de 120 $ accordée aux omnipraticiens pour chaque patient orphelin pris en charge. Christian Dubé veut mettre fin à cet incitatif au moment où une importante négociation s'amorce avec les médecins de famille. Véronique Prince.
Un patient sur deux ne réussirait pas à obtenir de rendez-vous, même s'il fait désormais partie de la liste d'un groupe de médecins de famille. Pourtant, le ministre Christian Dubé se félicitait d'avoir permis à plus de 900 000 Québécois d'être inscrits dans un GMF grâce à son nouveau guichet d'accès à la première ligne, ce qu'il appelle le GAP.
Est-ce que, au total, cette mesure-là a permis une réelle augmentation du nombre de patients qui sont vus?
Il veut vérifier si les médecins se rendent disponibles. Sinon, pas question de donner plus d'argent. Il ne renouvellera pas la prime annuelle de 120 $ pour chaque patient orphelin inscrit grâce au GAP. Le docteur Michel Lafrenière craint que ça nuise au fonctionnement du guichet. Bien des omnipraticiens seront démotivés d'y participer et seront tentés de revenir à l'ancienne méthode.
On va donner des services sans rendez-vous dans le cadre du sans rendez-vous.
Le ministre répète que cet autre bras de fer s'inscrit dans le contexte où la Fédération des médecins omnipraticiens s'apprête à renégocier avec Québec la rémunération et les conditions de pratique.
Le GAP, il est là pour rester. On va s'entendre.
Nous, on est prêts à négocier cet après-midi, demain matin, en fin de semaine, 24 heures sur 24, pour trouver des solutions.
Le président de la Fédération, le docteur Marc-André Amiot, se pose la question, s'ils ne parviennent pas à s'entendre d'ici la fin mai, pourquoi les médecins devraient-ils aider Christian Dubé à faire fonctionner son nouveau guichet plutôt que de faire à leur manière?
Bien, il y a une responsabilité professionnelle.
Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.
Le gouvernement Legault harmonise son régime fiscal avec certaines mesures proposées dans le budget fédéral de mardi, notamment la hausse de l'imposition des gains en capital de plus de 250 000 $. La mesure pourrait rapporter à Québec 3 milliards de $ sur 5 ans, selon le ministre québécois des Finances, Éric Girard.
Aujourd'hui, aujourd'hui,
Des centaines d'artistes ont manifesté à Montréal cet après-midi contre un sous-financement de la culture dans le dernier budget du Québec. Rassemblés devant les bureaux du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ils ont par exemple dénoncé la baisse du financement du Conseil des arts et des lettres du Québec à 160 millions et demi de dollars pour l'année 2024-2025. Le regroupement d'artistes estime que le Conseil a besoin de 100 millions de dollars de plus pour atteindre un seuil minimal viable. Présente à la manifestation, la présidente de l'Union des artistes, Tania Contoyani.
En ce moment, on se sent complètement oublié. On sent que notre travail et notre rapport à la société n'est pas reconnu. Et comme tous les travailleurs actuellement dans toutes les sociétés, on est en quête de reconnaissance de notre rapport. On sait qu'un dollar investi en culture rapporte 3 et 4 dollars selon les régions, alors qu'il y a des industries qu'on finance avec l'argent public à hauteur de milliards.
D'autres manifestations auront lieu le mois prochain et au mois de juin. Hydro-Québec et le Conseil Mohawk confirment leur partenariat dans le projet d'exportation d'électricité vers New York. Ils seront copropriétaires de la ligne d'interconnexion de La Prairie à New York qui permettra de transporter de l'électricité destinée à la métropole américaine. L'entente a été signée à Ganawagé, au sud-ouest de Montréal. Diana Gonzalez y était.
C'est une entente historique.
This will be something that we could be proud of.
Et la chef de Ganawagé, Gassena Hawe Skydeer, en est fière. Le Conseil Mohawk et Hydro-Québec seront copropriétaires de la ligne Airtel-New York, une ligne souterraine de près de 58 km. Sa mise en service est prévue en 2026. Elle va relier le poste Airtel à la prairie en Montérégie, à la frontière canado-américaine, où elle sera raccordée au réseau new-yorkais. La communauté Mohawk va détenir une participation minoritaire d'au moins 10 % Elle pourra augmenter sa part. Hydro-Québec restera toutefois partenaire majoritaire. Le PDG de la société d'État, Michael Sebia.
Cette ligne représente pour nous une occasion de développer des relations à l'extérieur du Québec qui pourraient bien répondre à nos besoins dans l'avenir.
Hydro-Québec évalue que ce projet pourrait lui rapporter 30 milliards de dollars sur 25 ans. Et des dizaines de millions de dollars chaque année pour la communauté Mohawk.
It gets deployed into services in the community.
La chef de Ganawagé explique que cet argent permettra de financer des services pour sa communauté. Hydro-Québec et le gouvernement Legault espèrent que cette entente permettra d'ouvrir la porte à des partenariats avec d'autres communautés autochtones. Ici Diana Gonzalez, Radio-Canada, à Ganawagé.
Une opération policière contre un réseau de fraudeurs qui ciblait les aînés a mené à l'arrestation de 14 personnes à Montréal. La police provinciale de l'Ontario, la Sûreté du Québec et le service de police de la ville de Montréal ont collaboré à l'enquête. Les policiers ont identifié 126 victimes, principalement en Ontario, à qui les fraudeurs auraient soutiré plus de 736 000 $. Le kéfier, un emblème des Palestiniens, est maintenant banni à Queen's Park, la législature ontarienne. Les députés ontariens ne peuvent plus porter le foulard noir et blanc en raison d'une nouvelle directive du président de l'Assemblée, une directive qui ne plaît pas au premier ministre Doug Ford. Mathieu Simard nous rend compte du débat qui s'est tenu sur la question.
Avant de parler politique, comme à l'habitude, les députés ontariens ont abordé la question du code vestimentaire. Le président de l'Assemblée législative a statué que le kéfier est un accessoire politique. Il est donc maintenant banni à Queen's Park. Le président Ted Arnott ne croit pas que sa décision va alimenter les tensions. Il essaie simplement de respecter les traditions législatives. Malgré la conviction du président, l'interdiction de porter le kéfier ne fait pas l'unanimité. Pour le premier ministre Doug Ford, la nouvelle directive vestimentaire est une mauvaise idée dans le contexte actuel. Les députés d'opposition ont bien tenté de renverser la décision du président, mais sans succès.
Agreed?
I heard some noise.
Il devait obtenir le consentement unanime de la Chambre. Or, au moins une députée, la conservatrice Robin Martin, s'y est opposée. Selon elle, le kéfier n'a pas sa place en Chambre ni dans les couloirs de l'Assemblée. Pour l'heure, l'interdiction est maintenue. Les députés pourraient toutefois réclamer la tenue d'un autre vote afin que le kéfier soit de nouveau autorisé. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada. Toronto.
Et au hockey, le bureau des gouverneurs de la LNH a officiellement entériné la vente des Coyotes de l'Arizona. L'équipe évoluera dorénavant à Salt Lake City, en Utah. La transaction est évaluée à 1,2 milliard de dollars américains. Les Coyotes étaient en Arizona depuis 1996. Voilà, nous vous avons présenté le Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada.